Alors nous lisons ce matin tout d'abord dans le Premier Testament, dans le livre de l'Exode, au chapitre 9, quelques versets. Il s'agit en fait là du récit bien connu des 10 plaies d'Égypte, mais ce matin nous lisons comme exemple le récit concernant la 7e plaie. Le Seigneur dit à Moïse, « Demain, lève-toi de bon matin, va te présenter devant le Pharaon et déclare-lui, « Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, t'ordonne ceci, « Laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me rendre un culte. En effet, cette fois-ci, je suis décidé à infliger toutes sortes de fléaux à toi, à ton entourage et à ton peuple, afin que tu saches que personne sur la terre n'est comparable à moi. » Malgré cela, je prends un peu plus loin, « Malgré cela, tu continues de traiter mon peuple avec mépris en refusant de le laisser partir. C'est pourquoi demain, à pareille heure, je vais faire éclater un violent orage de grêle tel qu'il n'y en a encore jamais eu depuis que l'Égypte existe. » Le Seigneur dit à Moïse, « Lève ton bras vers le ciel, que la grêle s'abatte sur toute l'Égypte, sur les hommes, sur les bêtes et toutes les cultures du pays. » Moïse leva son bâton vers le ciel, le Seigneur déchaîna le tonnerre et la grêle, la foudre s'abattit d'abord sur le sol, puis le Seigneur envoya la grêle sur le pays. Dans toute leur histoire, les Égyptiens n'avaient jamais vu un si violent orage de grêle accompagné d'une telle foudre. Dans l'ensemble du pays, la grêle frappa tous ceux qui se trouvaient dans les champs, hommes ou bêtes. Elle hacha les cultures et brisa les arbres. Le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur déclara, « Cette fois, j'ai eu tort. C'est mon peuple et moi qui sommes coupables. Le Seigneur, lui, agit avec justice. Implorez-le en ma faveur pour que cesse le tonnerre et la grêle. Je vais vous laisser partir. Je ne vous retiendrai plus. » Moïse lui répondit, « Dès que je serai sorti de la ville, je lèverai les mains vers le Seigneur pour le prier. Le tonnerre et la grêle cesseront afin que tu saches que la terre appartient au Seigneur. Pourtant, je sais que toi et ton entourage, vous ne respecterez pas encore l'autorité du Seigneur Dieu. » Moïse quitta le Pharaon et sortit de la ville. Il leva les mains vers le Seigneur et il pria. Alors le tonnerre se tut, la grêle et la pluie cessèrent de tomber. Le Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé, commit la même faute qu'auparavant. Lui et son entourage s'entêtèrent de nouveau. Comme le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire de Moïse, le Pharaon refusa obstinément de laisser partir les Israélites. Et puis ensuite, nous lisons dans l'évangile de Marc, au premier chapitre, les versets 1 et 3, et ensuite 9 à 13. Ici commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit « Je vais envoyer mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert, « Préparez les chemins du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Et un peu plus loin, au verset 9, alors Jésus vint de Nazareth, localité de Galilée, et Jean le baptisa dans le Jourdain. Au moment où Jésus sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » Tout de suite après, l'Esprit le poussa dans le désert. Dans certaines traductions, on pourrait même dire « l'Esprit le bouscula jusque dans le désert ». Jésus y resta pendant 40 jours et il fut tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Béni est l'homme qui compte sur le Seigneur, il est son assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il ne sent pas venir la chaleur, son feuillage reste toujours vert. Une année de sécheresse ne l'inquiète pas, il ne cesse de porter du fruit. Toi, mon frère, toi, ma sœur, comme un arbre planté au bord de l'eau, enracine-toi dans l'Évangile, lève tes branches vers le soleil, laisse monter en toi la sève de la vie, et quand la saison arrive, produis du fruit. Ce temps de carême qui vient de s'ouvrir pour les chrétiens est pour beaucoup un temps de conversion, de regard sur soi, sur sa vie, sur son environnement, sur le monde. Un temps où, à l'écoute du Christ qui vécut 40 jours au désert avant de s'engager dans son ministère, dans son service pour les autres, un temps où peut-être nous nous mettons nous-mêmes comme à nu. Faire le point, dit-on parfois de manière toute simple. Il est vrai que dans nos vies, des situations de crise, de fatigue, de maladie, nous conduisent spontanément à ces attitudes où l'on prend du temps, plus que d'habitude, pour ajuster nos vies à ce que nous voulons pour elles, et ce que nous n'avons pas toujours pris le soin de faire. Et parfois donc, ces temps de retraite, de révision de vie, dirait-on, donne lieu à de véritables changements de comportement. C'est une vieille constante, j'ai envie de dire anthropologique, c'est-à-dire commune à toute l'humanité. C'est une vieille constante que l'on retrouve dans toutes les civilisations, dans la plupart des religions, au sein de tous les peuples, et même parfois dans certaines organisations collectives contemporaines. J'ai évoqué la révision de vie, on pourrait évoquer aussi ces séances d'autocritique que certaines organisations politiques mettaient en place pour que les pratiques des militants soient toujours plus conformes aux idéaux, aux objectifs que le groupe s'était fixé ou auxquels il croyait. À vrai dire, il faut le reconnaître, et c'est là une autre constante, souvent les changements de vie consécutifs à ces temps de remise en question sont bien éphémères. Et souvent, après quelques bonnes résolutions, après quelques promesses faites à soi-même ou aux autres, le retour au passé fait loi et la nouveauté de vie est rapidement enterrée, ensevelie sous le linceul des habitudes indéracinables. Aussi n'est-il pas surprenant que nombre de religions aient instauré comme un temps institutionnel de crise, peut-être que par une sainte pédagogie, chaque année, l'occasion soit donnée à chacun de nous de se mettre en situation, selon ses valeurs, ses références, sa foi, de saisir une occasion, le moment propice pour bousculer une vie, parfois bien entravée par nombre de nécessités acceptées, voulues, subies ou choisies. Et le temps du carême est traditionnellement ce temps offert chaque année, pour certains en tout cas, pour que quelque chose change dans nos vies. Mais aujourd'hui, plus que de nos histoires personnelles, j'ai le désir de parler de nos aventures collectives et de la place que le changement y occupe. Ce qui est vrai dans nos vies privées a sa correspondance dans la vie de nos sociétés. Il est des temps aussi où un groupe, un peuple, une nation ressent confusément la nécessité d'un changement. Ces temps prennent des formes diverses. Cela peut être un coup d'État, une révolution de palais, un raz-de-marée électoral, une grève générale massive, des émeutes soudaines, et souvent, suite à ces agitations multiples, fleurissent les paroles d'apaisement, les promesses abondantes, les engagements la main sur le cœur. Et puis, comme dans nos vies, la répétition s'installe, et là où l'on croyait que du nouveau allait surgir, s'impose le retour à la normale, qui n'est jamais que la reproduction de ce qui a toujours été, et finalement, de plus en plus désabusés les uns et les autres, nous acceptons que tout bouge pour qu'en fin de compte, rien ne change. Ce constat un peu désespérant a résonné en moi comme un écho à ce premier texte que nous avons lu aujourd'hui, où l'on voit un pharaon et son peuple s'affronter régulièrement à des situations de crise grave. Les 10 plaies d'Égypte, récit bien connu, chaque fois, dans un élan de sincérité qui ne dure que l'instant d'une peur, ce même pharaon promet aux plus opprimés de ses sujets, en l'occurrence un peuple qui attend sa libération, de répondre à son attente et de lui accorder la liberté. Mais pour cela, et c'est pour cela que Pharaon, chaque fois, renie sa parole, il faudra changer. Accorder à ce peuple d'esclaves sa liberté, ce n'est pas seulement faire un geste généreux, c'est aussi accepter un changement de mode de vie pour Pharaon et ses obligés. L'Égypte a pris goût à ce confort que procure cette foule de miséreux, prêts à tous les sacrifices pour une soupe ou une aumône. Pharaon et ses obligés ont pris goût à ce niveau de vie que seule l'oppression d'une multitude inorganisée permet. Alors oui, on peut promettre de les laisser aller, puisque c'est leur désir, mais de là à renoncer librement, volontairement, à ce qui depuis des lustres constitue le ciment de cette société bien rodée avec ceux qui en profitent et ceux qui en pâtissent, il y a un abîme. Pourtant, on a l'impression que des événements surviennent, pour ainsi dire, comme pour forcer la main à Pharaon. Des crises apparaissent au nombre de 10. Celle que nous avons parcourue aujourd'hui est la 7e. Eh bien, rien n'y fait. Ça bouge, ça tangue, la société est bousculée, l'autorité vacille, mais finalement, rien ne change. Il faudra encore bien des malheurs, bien des souffrances, pour que Pharaon consente à une autre vision de son pouvoir, de son autorité, de la société et du monde. Il faudra encore bien des souffrances et bien des malheurs pour qu'un pas vers la vie bonne soit fait par ce despote aveuglé par la nécessité. Pharaon ne savait pas que l'on pouvait vivre autrement, ou plutôt ne le voulait-il pas ? Et d'ailleurs, il sera lui-même et tous ceux qui lui sont redevables avec lui, victimes d'un refus ultime qui le conduira à la mort. Le chemin de la liberté des uns sera pour lui le cortège qui mène à la mort. Alors, vous ne serez pas surpris si la lecture de ce texte m'a suggéré quelques rapprochements avec ce que nous traversons aujourd'hui. Et je me suis effectivement demandé combien de crises, combien de catastrophes nous allions traverser avant que nos pharaons et tous leurs obligés, au-delà des promesses d'un jour oubliées à la moindre accalmie, au moindre frémissement rassurant des indices, combien de crises allions-nous subir avant que véritablement un changement, une vraie conversion s'opère dans notre monde si attaché à ses conforts injustes et si peu partagé. Pharaon était attaché si religieusement à son mode de vie qu'il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Pharaon était tellement prisonnier de ce qui pour lui était la seule réalité qu'il ne pouvait s'en détacher quand bien même il avait sous les yeux toutes les conséquences néfastes de l'ordre établi. Eh bien, aujourd'hui, posons-nous la question, ou plutôt, osons poser la question. Jusqu'à quand faudra-t-il que des réfugiés s'échouent sur nos côtes pour que nous ouvrions nos portes généreusement? Jusqu'à quand faudra-t-il que des sans-domicile meurent pour que nous partagions nos toits confortables? Jusqu'à quand faudra-t-il que des travailleurs pauvres quémandent une aide dérisoire pour que le scandale du luxe, du gaspillage, de la gabegie ostentatoire soit réprimé? Jusqu'à quand des pouvoirs complices et séduits tolérerons l'arrogance et le mépris des nantis pour ceux qui usent leur santé et parfois leur vie pour construire une famille? Jusqu'à quand voudrons-nous faire de notre pays un îlot de sécurité au cœur de la tempête? Pharaon a dû subir et faire subir à son peuple bien des souffrances pour accepter de changer. Espérons que la sagesse de nos pharaons d'aujourd'hui sera plus grande et qu'ouvrant les yeux sur la réalité, ils seront prompts à trouver des chemins de liberté et de fraternité pour ceux dont ils ont la responsabilité. Et nous pouvons, nous devons l'espérer, car, et c'est là la nouveauté, aujourd'hui n'est plus comme hier. Aujourd'hui, la bonne nouvelle s'est approchée. Aujourd'hui, ce que nous vivons n'est pas une catastrophe. Ce que nous traversons n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, au cœur du désarroi qui nous étreint, il nous appartient de croire qu'un avenir heureux est possible. L'évangile de Marc que nous avons lu l'une nous dit une chose toute simple. Aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Aujourd'hui, c'est le commencement. Aujourd'hui, c'est la libération de tout ce que nous prenions pour nos raisons de vivre, mais qui sournoisement nous conduisait à mourir. Aujourd'hui est un jour nouveau qui conduit à la vie. Hier, Noé avait sauvé sa vie en s'enfermant dans une arche sécurisée, ignorant le sort de ceux qu'il avait côtoyés. Aujourd'hui, avec Abraham, nous avons appris que la vraie vie, c'était non pas de se protéger d'un avenir inquiétant, mais de construire par un long pèlerinage fait de rencontres et de partages un chemin de bénédiction pour toutes les nations. Aujourd'hui, fort de la certitude que plus jamais la vie ne sera détruite par plus puissant et plus fort que nous, nous sommes libérés pour une fraternité volontaire qui est le commencement d'un monde nouveau. Aujourd'hui, avec ce carême dans lequel nous nous trouvons, aujourd'hui ce carême nous rappelle que la vie n'est pas du côté de la surabondance des objets possédés ou des denrées consommées, elle n'est pas du côté des égoïsmes frileux ou des ambitions démesurées, elle n'est pas non plus du côté des pouvoirs capricieux ou des séductions frelatées. La vraie vie est du côté de la simplicité, de la frugalité, de la sobriété et surtout de la fraternité. Pas une solidarité contrainte par les nécessités, mais une fraternité volontaire, désirée, aimée, parce que seule elle permet de vivre ce commencement nouveau que le Christ a inauguré et qu'il nous est offert de vivre aujourd'hui et maintenant, ici et là-bas. Mais la fraternité ne se décrète pas, elle se reçoit dans l'humilité et la reconnaissance, et c'est pour cela qu'il est aussi question, et ce sera ma conclusion, de conversion et même de repentance. Aujourd'hui est un jour nouveau, le commencement d'une bonne nouvelle, parce qu'il nous est offert à tous sans exception de faire retour sur nous-mêmes et humblement, n'en déplaise aux philosophes de la volonté de puissance, de reconnaître qu'il nous est arrivé de nous tromper, de mentir, de trahir, de dominer, de séduire, en un mot de faire non pas tant ce qui est mal, mais ce qui fait mal. Tous, sans exception, nous avons été ces hommes et ces femmes-là. Mais aujourd'hui, laissant derrière nous ce qui, dans le passé, a blessé ou nous a blessés, sans culpabilité, nous pouvons, dans la gratitude et la reconnaissance pour ce monde dont nous avons hérité, croire qu'un commencement est possible et qu'il sera source de paix, de joie, de justice pour tous les fils et toutes les filles de cette terre. Une bonne nouvelle frappe à notre porte. Pour celles et ceux qui ouvrent cette porte avec assurance, se lève le matin de toutes les espérances, l'aube de toutes les confiances. Amen.